Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
La zone payante.
Bienvenue dans la zone payante, amateurs de football. Et on a un lundi festif à vous offrir avec une victoire des Chiefs de Kansas City et le Laurent Duvernay-Tardy. Un match spectaculaire. J'espère que vous avez apprécié, amateurs de football. Et on a un gros balado pour terminer la saison à vous offrir. Aujourd'hui, on a bien sûr Stéphane Cadoret, journaliste du Journal de Québec, qui a couvert le match de fou dimanche soir. Stéphane, t'es avec nous?
Oui, très content d'être avec vous.
Ah la boy, mon Steph, merci d'être là. Je sais que t'as eu une nuit de fou. D'ailleurs, on va prendre le temps de parler de ça plus tard. Et je suis bien sûr avec Jean Carrier à mes côtés à Québec là, pour parler de ce match-là. C'est notre spécialiste fantasy et ex-analyste du Rouge et Or Football. John, est-ce en forme?
Tout à fait.
Hey boy. Alors, Steph, je pense qu'on va y aller directement avec toi, là, à chaud, après cette victoire-là, les réactions de vestiaire un peu, là, on lancera pas les clips tout de suite, là, mais parle-nous un peu de cette ambiance de fou-là après cette victoire spectaculaire des Chiefs contre les 49ers de San Francisco.
Ben, c'est un Super Bowl très particulier parce que, bon, écoute, moi, c'était le 9e, mais avec toute la présence, tout l'engouement avec la présence de Laurent Duvernay-Tardif, ça changeait la game pas mal. T'sais, il y avait beaucoup plus, je dirais, d'émotion. C'est pas une question d'être partisan des Chiefs ou pas. Je pense que ce que Laurent Duvernay-Tardif a réalisé en remportant le Super Bowl avec les Chiefs, c'est gros pour le football au Québec là, de manière générale. T'sais, combien de personnes très néophytes. Hier, on dit, bon, ben moi, je vais écouter le Super Bowl, on va voir, tu sais, ce Laurent-là, je le connais pas trop, puis qu'ils vont devenir tranquillement, pas vite, accrochés au football. Je pense que ça va amener beaucoup de nouveaux amateurs au Québec. Puis, pour plus spécifiquement, là, sur l'euphorie d'après-match, là, à Miami, du côté des Chiefs, écoute, c'était évident, les joueurs étaient totalement euphoriques, c'était fébrile. Ça parlait de partir, c'était drôle de voir aller Travis Kelce qui avait l'air solidement d'avoir hâte de prendre une grosse bière. Là, c'était de toute beauté. Puis beaucoup d'émotions entourant la première victoire là, au Super Bowl pour Andy Reid après 21 ans dans le coaching. Ça a été souligné par à peu près tous les joueurs. Il y a un petit point là qui est à souligner, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs. Ça m'a étonné un peu de la part des Chiefs. Je comprends que c'était, comme je le disais, l'euphorie là après la victoire. Il y en a beaucoup qui commençaient déjà à parler de potentielle dynastie. Ça peut. Je veux pas gâcher la parade. Faut faire attention à ces trucs-là parce que honnêtement, quand tu te mets à parler de dynastie, c'est rare que finalement tu restes dans le moment présent et que tu es focusé là, sur la tâche à venir. Mais on va laisser les Chiefs fêter là, quand même. Ils méritent pleinement cette victoire-là qu'ils ont gagnée là, de belle façon. Mais je tenais juste à le souligner là, parce que.
Ils ont le mot de la dynastie facile. OK.
C'est ça, tu sais.
Ben, là, on va y aller, Stéphane, et on va y aller avec quelques clips que tu nous as envoyés de Laurent Duvernay-Tardif. Et on va commencer. Premier clip, ça va être un petit peu, là, il nous parle d'avoir vécu ça avec sa famille, ses proches. On lance le clip, s'il vous plaît.
Tu décris les moments, mais surtout les émotions que tu as ressenties avec ta famille sur le terrain.
Écoute, quand on a marqué le toucher par la course avec Damien Williams, je pense que les genoux m'ont un peu lâché. C'est vraiment là qu'on s'est rendu compte collectivement, je pense qu'on a gagné le Super Bowl. Puis après ça, ben de voir les célébrations, de voir ma famille, de voir mes parents, de voir Flo, de voir ma gang de malades dans la section 300 avec leur banderole puis leur drapeau. C'est incroyable de vivre ça avec toutes les gens qui ont été derrière moi depuis le début. C'est pas tout le monde qui était ici ce soir, mais c'est sûr que c'est un sentiment cher que je suis pas prêt d'oublier.
Quel beau moment, Steph. Parle-nous de ça quand tu as pris cette clip-là. Quel beau moment d'émotion que tu as vécu avec le joueur québécois.
Ben, tu sais, c'est particulier parce que faut savoir, les joueurs ont droit à une quinzaine de billets. Fait que c'est pas évident pour eux, des fois, de faire le tri. Là, tu sais, il faut que tu choisisses là, dans tes amis, ta famille, tous les entraîneurs, les gens qui ont influencé vraiment ton parcours, qui ont marqué un peu ta vie professionnelle comme personnelle. Faut que tu fasses un choix là-dedans. Tu te retrouves avec probablement les personnes les plus influentes dans ton parcours qui sont là sur le terrain pour célébrer la victoire avec toi après le match. Tu sais, c'est tout simplement phénoménal là, pour Laurent de vivre ça. On sentait l'émotion. Puis vous allez le voir là, dans les prochaines clips aussi. Beaucoup d'émotion aussi pour son entraîneur-chef Andy Reid.
Ben justement, on va aller là-dessus. Si on peut envoyer la clip qui dans laquelle là, Laurent rend hommage à son coach, Coach Reid.
Après quoi, 25 ans de head coach, probablement un des meilleurs head coach de la NFL. Pour nous, ça veut dire beaucoup, mais pour lui, je pense que c'est encore plus gros. Puis il mérite. Puis ça a été définitivement dans mes pensées quand on a gagné. Enfin, on l'a donné à Coach Reid cette opportunité-là d'être champion du monde.
On voit que les gars se sont battus pour leur coach, Stéphane.
Tout à fait. Puis dans le cas de Laurent, plus particulièrement, tu sais là, écoute, j'ai sélectionné un extrait, là, mais il y en avait plusieurs où il revenait sur Coach Reid. Puis je dois vous dire que dans cet extrait-là, à un moment donné, on entend comme une petite pause. C'est pas une erreur de montage, c'est Laurent à un moment donné qui se met à chercher ses mots. On voit ses yeux qui deviennent humides, la voix qui étrangle un peu. Pis c'est pas exagéré là, de le décrire comme ça. Il y a vraiment eu un sentiment fort pour son entraîneur. Tu sais, il faut savoir, là, rappelez-vous, quand les Chiefs ont donné une chance à Laurent Duvernay-Tardif, il était vu comme un projet, le petit joueur canadien qui sortait un peu de nulle part, qu'on allait développer un choix de sixième ronde qui peut potentiellement avoir un avenir intéressant. Puis tu te retrouves avec un garde à droite partant qui s'est extrêmement bien développé. Donc, tout le mérite va à Laurent. Mais il y a une grosse partie du crédit aussi qui doit revenir à Andy Reid d'avoir eu cette vision-là, d'avoir eu ce courage-là de le sélectionner. Puis je pense que c'est tout ça que Laurent ressentait après le match, là, en voyant le fil des événements.
Puis je vais renchérir un petit peu sur ce que tu viens de dire, Stéphane. C'est pas simplement le fait de le repêcher. Oui, évidemment, t'as pris une chance, mais il a été critiqué, Andy Reid, quand ils ont concédé le contrat lucratif à Laurent Duvernay-Tardif. Ça a vraiment pas fait l'unanimité à Kansas City, ce contrat-là. Puis je pense qu'il a prouvé sa valeur là, avec le Super Bowl, mais au fil des ans, que Laurent avait mérité ce contrat-là, tout simplement. Là.
On va continuer, Stéphane, et on va mettre la clip là, dans laquelle Laurent nous parle des ajustements que les Chiefs ont fait au quatrième quart là, pour revenir dans le match et l'emporter.
Coach Reid est juste un coach incroyable qui est capable de comprendre un peu la situation, savoir que défensivement, on faisait quand même face à des super bons pass rushers. D'aller sans caucus, d'augmenter la cadence, je pense que c'est vraiment ça qui a changé le momentum. Ça fait en sorte que l'autre équipe est peut-être plus fatiguée aussi. Puis Pat est toujours resté calme dans la situation, peu importe si on tirait de l'arrière, s'il y avait une interception, un sac, toujours rester calme, faire ses lectures, faire les jeux. Puis je pense que, ça a été assez pour l'emporter.
Alors, Stéphane, parle-nous de ça, ces ajustements au quatrième quart.
Ben, ça a changé le match beaucoup. Il faut dire qu'à un certain moment, particulièrement au troisième quart, on sentait là, la ligne offensive des Chiefs perdre le contrôle du match un peu. Faut être capable de l'admettre. Là, c'était dur même pour Laurent.
Laurent a eu un match difficile en ouverture jusqu'au troisième quart. Deux hors-jeu. Il a été responsable directement d'un sac du quart. Donc, ça a été un match quand même difficile là, pour Laurent.
Mais il faut préciser une chose. Il y a les ajustements d'Andy Reid, effectivement. Quand on a amené l'attaque plus up-tempo, ça a changé le cours de la rencontre. Mais je veux juste préciser une chose sur la performance de Laurent Duvernay. À partir du deuxième quart, il y a eu une blessure au mollet qui l'a affecté pas mal. Il n'a pas voulu déclarer là, après le match. Il s'est fait poser la question, est-ce que c'est une blessure qui est sérieuse? Il a juste esquissé un sourire, puis il a dit écoute, il a été surpris que la question soit posée, puis il dit « je pense pas que c'est très sérieux ». C'est tout ce qu'il a dit, mais c'est évident que ça a dû affecter le jeu de Laurent, puis le synchronisme en général là, sur la ligne offensive. On sait à quel point c'est une unité qui doit opérer avec une cohésion très serrée. Ça n'a pas été facile, donc, mais les ajustements qui ont été apportés, là, comme le fait de jouer sans caucus, beaucoup plus up-tempo, on sent que c'est là que Patrick Mahomes et les Chiefs sont beaucoup plus à l'aise, puis vraiment, ça a changé le cours là, de la fin de rencontre.
Moi, ce qui m'impressionne dans ce match-là, c'est la défensive des Chiefs. En fin de match, on a réalisé les jeux pour redonner la balle à l'attaque. On en parlait de Jean-Nessy, là, avant l'émission. Tu peux-tu nous détailler ça un peu? Parce que la défensive des Chiefs a eu un rôle majeur à jouer en fin de match.
Ben oui, je pense que, écoute, je me trompe peut-être, mais la stats que j'ai entendue, je pense qu'il avait donné 44 verges totales au quatrième quart. C'est pour fermer la porte, c'est tellement majeur. Mais moi, je vais rappeler un point. Quand c'était 20-10 en faveur des Niners, puis Mahomes venait de lancer sa deuxième interception, moi, c'est là qu'une partie du match s'est jouée. La porte était grande ouverte pour San Francisco, puis c'est là que la défensive, selon moi, des Chiefs s'est vraiment levée. Ils ont rien donné. Ils ont même pas donné une longue séquence à l'attaque. T'sais, simplement trois points auraient vraiment changé complètement l'allure du match. Au lieu de ça, je pense qu'ils ont donné un ou deux premiers jeux, puis après ça, ils les ont arrêtés. Honnêtement, c'est chapeau à la défensive de Kansas City. Sans la défensive, ils ne gagnaient jamais ce match-là. C'était impossible. Moi, j'avais l'impression qu'à 20-10, c'était possible que San Francisco continue tout simplement leur attaque au sol. Puis là, à un moment donné, je me dis, ben, la défensive des Chiefs va peut-être être fatiguée, va commencer à donner des verges. Ouais, non, au lieu de ça, très, très solide. Du début jusqu'à la fin. Écoute, on n'aurait pas pensé ça au début là, de la rencontre. L'attaque totale terrestre de San Francisco, 141 verges en 22 portées. Celle des Chiefs, 129 verges en 29 portées. C'est presque similaire, donc c'est vraiment un gros avantage pour les Chiefs. Puis dans le 141 verges, il y a trois courses de Deebo Samuel pour 50 verges. Donc si t'enlèves
c'est quelques
le jet
là.
Sweep, t'enlèves le balayage du receveur ou les jeux renversés avec lui, honnêtement, ils ont quand même contenu Mustard, Coleman de façon solide. Puis on n'a pas vu Breida. Breida n'a pas été utilisé vraiment là, dans ce match-là.
Vas-y donc de ton part, Stéphane. Parle-nous donc un peu justement du travail de la défensive des chefs dans ce match.
Ben, écoute, tu regardes les dernières séquences à l'attaque. À partir du moment où finalement, comme Jean le mentionnait, c'était 20 à 10, les Niners, leur série suivante, 5 jeux, 17 verges, punt. Ensuite, les Chiefs marquent un touché. La série suivante des Niners, 3 jeux, 5 verges, punt. Un autre touché des Chiefs. La séquence suivante des Niners, 7 jeux, 27 verges. Puis, ils redonnent le ballon là après 4 essais. Un autre touché des Chiefs, une interception ensuite de la défensive des Chiefs. C'est tout simplement remarquable pour une unité qui a été ridiculisée toute l'année. T'sais, franchement, là, la saison de la défensive des Chiefs a très mal commencé. On se disait, à un moment donné, il était atroce l'an dernier. Tout ce que c'est cette année, c'est à peine mieux. T'sais, c'était dangereux. Là. On se disait, est-ce qu'on va rencontrer finalement exactement le même scénario que l'année passée? Puis à partir de la mi-saison, cette défensive-là, s'est mis à jouer avec beaucoup plus de mordant. On s'est ajusté vraiment au système de Steve Spagnuolo qui, en passant, là, on n'est pas à son premier Super Bowl grandiose. Hein.
Non.
Il avait fait au Patriots avec les Giants comme coordonnateur défensif. Donc, il y a du vécu. On mérite, et il mérite beaucoup là, qu'on souligne son travail, le fameux Spags. Puis, tout ça pour dire que le parcours de la défensive des Chiefs cette année, ça n'a pas été de tout repos. Les gens ont douté, puis même quand ils se sont mis à bien performer, même quand ils ont stoppé la semaine passée, pas la semaine passée, mais en finale de conférence, Derrick Henry, c'est comme s'il y avait un doute tout le temps quand même dans la tête du monde. Est-ce que cette défensive-là peut vraiment tenir tête aux 49ers avec leur puissante attaque au sol? Ben, ils l'ont fait. Vraiment, c'est un travail colossal qu'ils ont accompli. Chapeau là à la défensive des Chiefs parce que je suis conscient, c'est normal. On va parler des exploits de Patrick Mahomes. On va parler du premier Super Bowl d'Andy Reid. Puis c'est normal d'en parler. C'est normal, tout à fait. On va parler du gros match de Damien Williams au sol aussi, qui était un peu le porteur oublié dans ce match-là. Mais pas parler de la défensive des Chiefs et du rôle qu'elle a joué dans cette victoire-là, ce serait carrément scandaleux.
Scandaleux, puis tu sais, faut juste mettre les bonnes choses à bonne place. La défensive des Chiefs, c'est pas la meilleure défensive de l'histoire. Là.
Non,
c'est une bonne défensive, c'est une défensive qui est opportuniste.
Qui
a créé des revirements dans des moments clés en fin de rencontre. Mais surtout aussi, c'est une défensive qui concède des verges. Mais ils ont été très bons en deuxième moitié de saison pour défendre la zone payante. T'sais, quand l'adversaire entrait là, dans les...
Dans le 20 verges.
Exact. Là, ça a été très, très difficile de compléter puis d'aller chercher des gros 6 points. Hier encore, je pense que ça a été le cas. Les Niners ont dû se contenter 2 fois de 2 placements. Ça a changé un petit peu l'allure du match. Puis on vient de le dire au 4e quart, ils ont été tout simplement extraordinaires.
Stéphane, moi puis le genre...
Sur ce que tu dis, juste finir.
Vas-y, Stéphane.
J'aime pas que tu le précises, parce que c'est vrai que je suis un peu enflammé, puis c'est vrai que la défensive des Chiefs passera pas à l'histoire, là. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que est-ce qu'on peut les saluer? Tout le monde rit de ça cette année. C'est, honnêtement, là, tout le monde s'est payé leur tête. Ah, la défensive des Chiefs, c'est comme l'an passé, blablabla. C'était un peu facile comme narratif, parce que c'est ce que tout le monde disait, donc on va dans le courant de ce que tout le monde dit, ça paraît bien. C'est pas la meilleure défensive de l'histoire, on n'est même pas proche de ça, là. On va arrêter. Sauf que c'est une défensive qui est largement supérieure à la perception populaire, je dirais. Puis c'est important là, de le souligner, honnêtement, il fallait le faire.
Oui, puis Tyrann Mathieu a joué de grosses séries éliminatoires pour les Chiefs. Il était encore une fois partout hier sur le terrain. C'est vraiment une bébête tannante, là. Je pense que les Chiefs sont allés chercher, j'avais des doutes un peu de la façon qu'il allait l'utiliser.
Comment il allait être utilisé?
Mais il a été utilisé de la bonne façon. Il faut que tu le laisses aller, il faut que tu lui donnes beaucoup de liberté. Puis honnêtement, ça a été une grosse addition pour les Chiefs. Puis juste mentionner aussi, où j'étais content, mon Terrell Suggs, qui est allé chercher un petit Super Bowl.
Ah ouais,
un petit Super Bowl sur le side. Moi, j'ai trouvé ça sympathique.
Moi, dans ce match-là, ce qui m'impressionne, Stéphane était bien témoin pour nous parler de ça. Patrick Mahomes, le match commence un petit peu difficile, des interceptions. Le joueur n'a pas lâché, a gardé le focus et a été en mesure de livrer la bonne performance et la marchandise.
Oui, tout à fait, parce que faut dire une affaire, là. Patrick Mahomes, après 3 quarts, il y avait 145 verges de gain par les airs. Jimmy Garoppolo paraissait mieux que lui. Là. Ouais. On l'oublie parce que Jimmy Garoppolo n'a pas répondu du tout aux attentes. Au 4e quart, on pourra en reparler. Parce que.
On va en parler, mon Steph.
Hein?
On va en parler, mon Steph, c'est sûr.
Ah oui, c'est sûr. Puis je paraîtrai pas bien dans ce segment-là parce que moi, j'y ai cru. C'est moi qui y croyais le plus dans notre trio infernal. Donc, mais coudonc, je ferai mon mea culpa.
Tu feras ton mea culpa tantôt. Mais vas-y avec Mahomes.
C'est 145 verges après trois quarts. C'était clairement pas un gros match de sa part. 2 interceptions. On sentait que la pression l'affectait de plus en plus, puis je parle pas de la pression du moment, là, au contraire, je parle de la pression des 49ers, tu sais, qui explosait sa pochette protectrice à peu près à tous les jeux. Puis quand un match comme ça, c'est facile à un moment donné de te laisser aller là, dans le négativisme, puis te dire que bon, tu peux pas te sortir du trou, que c'est une spirale sans fin. Mais ça a été tout un leader de ramener son club dans le match. Il y a eu un 4e quart phénoménal. Tu vois, il finit avec 286 verges. Donc, la moitié de sa récolte, il l'a eu au 4e quart. Puis, ça a été ça constamment dans les séries, Patrick Mahomes. Écoute, 5 fois cette saison, donc 3 fois en série, comblé des déficits de 10 points ou plus. Ça veut dire que ce gars-là abandonne jamais. C'est jamais fini quand il y a le ballon entre les mains. Les Chiefs le savent. C'est sûr qu'ils pourront pas faire ça là, pour l'éternité, mais c'est un corps arrière là, qui a le feu dans les yeux, qui est pas arrêtable finalement quand ça compte. C'est là sa plus belle qualité. Il y en a qui vont dire Mahomes avec 2 interceptions, est-ce qu'il méritait vraiment le titre de MVP du Super Bowl? Dans ma tête, oui. Je sais que Damien Williams a connu un gros match, ça aurait pu être lui aussi. Mais ça te prend un corps arrière pour te ramener là, dans les moments clés, quand ça chauffe dans la cuisine, quand ça va pas bien pour personne. Les Chiefs auraient pu là, complètement échapper ce match-là à partir du troisième quart. Il les a tenus dans le coup. Pour ça, je pense qu'il mérite notre respect. Il a bien performé malgré une pression constante des 49ers. T'sais, c'est pas la ligne défensive des Niners qui a perdu ce match-là, clairement pas. C'était la force de l'équipe avant le match. Puis ils ont démontré que si c'était juste deux autres, d'après moi, ils gagnaient cette partie-là. Là. Je pense qu'ils ont battu quand même, à part au quatrième quart. Ils ont dominé de manière générale la ligne offensive des Chiefs. Mais Patrick Mahomes a fait fi de la pression. Il a dirigé des poussées vraiment extraordinaires. Il a encore une fois eu quelques grosses courses sur des troisièmes jeux. Tu sais, Patrick Mahomes, à un moment donné, il est en train de donner son corps à la science. Là. Il se sacrifie pour l'équipe. Je pense que tout le monde carbure à son énergie sur le terrain. Puis pour toutes ces raisons-là, moi, en tout cas, dans mon esprit, je ne sais pas pour vous, là, mais il méritait le titre de MVP.
Ben, rapidement, moi, je suis un peu d'accord. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que c'était le MVP. John, est-ce pour toi?
Oui, écoute, c'est quand même lui qui a été le chef d'orchestre là,
De la remontée.
De la remontée. Je sais pas pour vous les messieurs, mais tu sais le jeu clé pour moi, ce qui a été qui a balancé, tu sais, qui a fait chavirer complètement le bateau de bord, c'est le fameux 3 et 14. Puis il y avait pas eu de longue passe de la journée ou de la soirée.
Ah, ouais.
Puis écoute, là, c'est là, à ce moment-là que Mahomes il a lancé, il a décoché là, une longue passe sur un tracé en coin à Tyreek Hill. Puis à partir de là, c'est moi je trouve que là, l'attaque des Chiefs a vraiment pris confiance. Le toucher de Kelce est venu pas longtemps après. Ils ont repris le ballon après pour la deuxième séquence. Puis là, c'était parti. Là. C'était vraiment l'attaque des Chiefs qu'on avait vu toute l'année. Moi, ce que je retiens aussi, c'est quand il a parlé, après avoir gagné le joueur le plus utile, il a dit, les joueurs, ils ont jamais arrêté de croire en moi. Ça aussi, c'est important. C'est ouais. Quelque chose que tu as établi tout au long de la saison, c'est sûr. Mais il est resté calme, comme Steph a mentionné. Il est resté positif. Ça, c'est important. Mais le fait aussi de que tes coéquipiers, de savoir que tes coéquipiers croient en toi.
Ils savent que tu vas faire la job.
Ben, c'est sûr que ça te donne confiance. Puis, tu sais, de dire, OK, là, il faut que ça se passe là. Puis, on fait les jeux importants au moment. Clé tout simplement de la rencontre. Écoute, c'est le plus jeune corps arrière à gagner le joueur le plus utile du match du Super Bowl. Il a 24 ans seulement.
Ne l'oublions pas.
C'est la première équipe, les Chiefs, qui en série remonte par un déficit de au moins 10 points, 3 équipes. Comme j'ai dit, c'est pas la recette que tu veux.
Non, tu veux des situations plus simples que ça.
Beaucoup plus simples, mais ça reste que si tu réussis à faire cet exploit-là, ça démontre quelque chose de Patrick Mahomes. Ça démontre que c'est un gars qui est extrêmement talentueux. Puis hier, on a vu un côté de lui qu'on a moins vu un petit peu dans la saison. Oui, il est capable d'utiliser ses jambes, mais hier, il a vraiment eu besoin de ses jambes pour
se sauver de la pression.
Ben, se sauver de la pression qui a été constante. Puis il y a quelques courses importantes aussi au quatrième quart. Qui a changé un petit peu l'allure du match. Donc hier, on a vu vraiment sa mobilité, à quel point c'est important. Mais je dirais, dans la nouvelle NFL, c'est important d'avoir un carrière mobile.
Stéphane, avant, on va prendre, pas tout de suite, après cette question-là, on va prendre une petite pause pour la suite du show. Mais moi, dans le match que j'ai remarqué, l'entraîneur des 49ers était sur place, Stéphane. C'est pour ça que je veux ton feeling. Il avait de l'air agressif sur le sideline, très impliqué, puis des fois, même en perte de contrôle. Je ne sais pas si tu peux nous parler de ça un petit peu, s'il vous plaît.
Ben, c'est malheureusement souvent le cas là, dans des situations comme ça où tout s'effondre soudainement. Puis Kyle Shanahan, il mérite une partie du blanc. Mais écoute, ces deux derniers Super Bowls, rappelons-nous, là, il était coordonnateur offensif des Falcons lors de l'effondrement monumental face aux Patriots. Là, on se souvient, les Patriots tirait de l'arrière par 25 points au troisième quart. Il avait orchestré une remontée vraiment mémorable. Puis Kyle Shanahan était responsable de l'attaque. Il avait été beaucoup critiqué en cette occasion-là. Là, juste pour vous donner une idée, avec le quatrième quart Falcons-Patriots, puis le quatrième quart de dimanche entre les Chiefs et les 49ers, les équipes de Kyle Shanahan ont été, en bon français, outscoring 46-0 lors des quatrièmes quarts et prolongations, là, parce que les Patriots avaient marqué en prolongation. Là, écoute, il y a un facteur malchance peut-être là-dedans, mais il y a un moment donné que 46-0, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Faut que tu te regardes dans le miroir, faut que tu te dises il y a certainement quelque chose que je fais pas comme je devrais faire en tant qu'entraîneur-chef pour que mon équipe finisse le travail. Tu sais, il a manqué quelque chose aux Niners hier, il a manqué l'instinct du tueur, puis ça peut paraître cliché de dire des phrases comme ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Quand tu dis 46-0 là, lors des deux derniers matchs, au quatrième quart et en prolongation pour les équipes de Kyle Shanahan, il y a clairement quelque chose qu'ils doivent revoir. Est-ce qu'on a abandonné trop vite le jeu au sol? Moi, j'ai pas aimé non plus la gestion même. On parle beaucoup du quatrième quart, mais tu as une minute avec le ballon en fin de première demi, trois temps d'arrêt. Les Niners qui ont pratiquement mis le genou au sol, une petite course, tu sais, ça, j'ai trouvé qu'ils ont manqué un peu là, d'agressivité dans certaines phases du match. Donc, pour ça, moi, ça n'a pas été, disons, là, un élément très positif là, dans le match des 49ers.
Qu'est-ce que tu veux ajouter là-dessus, John Essay?
Ben, moi, je pense que ce que tu voulais parler aussi, Mathieu, c'était son tempérament général.
Ouais, il était comme bouillant.
Il était on the edge,
ouais,
là, un petit peu.
En anglais,
ouais, il était vraiment là, sur le bord d'exploser. Puis, je vais vous rappeler, là, à un moment donné, une séquence au quatrième quart sur un jeu, Jimmy G est
poussé à l'extérieur avec fermeté.
Exact. Il a couru, mais il était clairement à l'intérieur du terrain. Puis il a vraiment pété sa coche auprès de l'officiel. Il l'a fait aussi sur l'interférence offensive. Là,
en fin de première demi.
Il a explosé complètement. C'est pas le Kyle Shanahan qu'on a vu tout au long de la saison, qui était beaucoup plus calme.
Plus positif aussi.
Oui, puis ça, je pense que ça a un impact sur tes joueurs. Surtout si tu changes de personnalité. Tu sais, t'as été calme toute l'année. Puis là, oui, l'enjeu est important, mais t'es en
là,
train de l'échapper un petit peu.
Mon coach panique un peu. Là.
Ben, c'est sûr que ça envoie pas le bon message, je pense, à tes joueurs. Moi, je pense que ça, il y a besoin de travailler ça un peu. Peu importe le résultat de la rencontre, si t'es calme tout au long de l'année, tu dois être calme en série. Si t'es un coach émotif, puis t'es toujours émotif, ben, reste émotif. Mais moi, ça fait pas de sens pour moi de changer complètement son chapeau de côté. Là.
Vas-y, Stéphane, là-dessus.
Ben, c'est ça que j'allais dire. T'sais, si t'es bouillant toute l'année et que c'est à ça que tes joueurs carburent, il n'y en a aucun problème. Là.
Exact.
T'sais, c'est complètement différent. C'est que là, le gars est calme, il est posé, puis tout à coup, il explose. C'est sûr que ça envoie un message un peu contradictoire. Ça m'a rappelé même le père Mike Shanahan, qui, à l'époque, des fois, là, moi, je me souviens, ses lignes de côté, il venait à face rouge, presque
monte. Oui, c'est vrai.
Écoute, il y a du père dans le nez, là, très certainement. Puis c'est pas de montrer des émotions qui est grave. C'est juste qu'à un moment donné, les joueurs s'habituent à ton tempérament, ils suivent ton tempérament. Puis là, il y a eu une certaine panique, disons, là, dans la gestion du match, puis probablement que ça a affecté le rendement des joueurs.
On prend une petite pause, cher amateur de football, et on revient et on va taquiner un petit peu Stéphane avec Jimmy G.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Alors, on est de retour et on va taquiner un peu notre ami Stéphane Colorette, qu'on aime beaucoup. Stéphane, ce match-là, on va se souvenir de beaucoup de choses et on va se souvenir que quand on avait besoin de Jimmy G en fin de match pour les 49ers, Jimmy G n'était pas là. Je te laisse aller, Stéphane.
Non, c'est ça, effectivement. Moi, j'y croyais plus. Je dis pas que c'est fini sa carrière. Là,
puis non, je pense pas que personne dit ça non plus. C'est que aujourd'hui, hier, en fait, le dimanche, ça a été plus difficile.
Ouais, force est de reconnaître, honnêtement, qu'il a pas répondu présent. Il y avait une chance pour les 49ers. Là, ils ont eu le ballon, je pense. Il restait quelque chose comme 2 minutes 44 au match.
Ouais.
C'est là que tu fais des carrières. C'est là que tu construis un aura de corps arrière dominant, là, peu importe le genre de match que tu as joué, quand tu réponds présent dans les dernières minutes, souvent ta réputation est faite pour la vie. Puis moi, ce que je trouvais jusqu'à maintenant, c'est que Jimmy G, dans ces moments-là, lorsque le ballon avait été entre ses mains pour gagner des matchs, c'est pas arrivé si souvent, mais il y a eu son lot de poussées victorieuses au quatrième quart. Je pense qu'il y en a eu 5 jusqu'à maintenant, ou 7, je sais plus exactement le chiffre, mais il n'y a pas eu énormément de départs dans la NFL, il faut pas l'oublier. Donc, j'y croyais pour ça en Garoppolo. Je me rappelle la séquence contre les Rams, plutôt cette saison, contre les Saints, où on a souvent dit « Jimmy Garoppolo peut pas gagner un shootout ». Il le fait contre les Saints, ça a fini là, quelque chose comme 48-46. Donc, moi, il était dans mes bonnes grâces, je l'admets. Hier, il a été franchement décevant à ce niveau-là. T'sais, Emmanuel Sanders était ouvert sur la bande.
Oui.
Donc, il y en a qui disent sur un 3-10, pourquoi avoir tenté un jeu si long? Moi, c'est pas le jeu comme tel. Le jeu était bien dessiné. Sanders avait un pas d'avance sur son couvreur. Jimmy G a lancé quoi, 3 verges trop loin, manqué de précision dans un moment clé. C'est dommage vraiment pour les 49ers. Puis je vais préciser, je crois encore en lui, c'est juste que là, il a semé le doute dans mon esprit, comme il a semé le doute dans l'esprit de beaucoup d'autres là, qui étaient sceptiques par rapport à son potentiel. Les Niners lui ont donné beaucoup d'argent. Puis on a beau dire, OK, il n'y a pas beaucoup d'expérience comme partant, c'est vrai, il reste encore là, du chemin en masse à faire, mais il ne faut pas oublier une chose, là. Il n'y a pas énormément de temps pour se développer, Jimmy G. L'année prochaine, il va avoir 29 ans déjà. T'sais, c'est beau, il n'y a pas eu beaucoup de départs, mais c'est parce qu'il a commencé sa carrière de partant un peu sur le tard après avoir été réserviste de Tom Brady pendant plusieurs années. Donc, va falloir vraiment l'année prochaine qu'il amène son jeu à un autre niveau. Je sais pas là, si je me range dans le camp des sceptiques comme vous êtes, messieurs, mais ce que je peux vous confirmer, c'est qu'hier, moi, il m'a fait mal paraître. Je croyais beaucoup en lui. Puis dans un grand moment comme ça, ça aurait été l'occasion idéale. Imaginez tous les détracteurs là, qui se seraient mis en boule ce matin. C'est pas le cas. Il n'a pas répondu présent dans le grand moment. Très dommage pour M. Jimmy G.
Oui, donc, John Essay, parle-nous de Jimmy G.
Ben, écoute, ça va me faire plaisir d'en parler. Hier, ce que j'ai vu, c'est ce que je doutais un petit peu. Il est très bon quand à l'intérieur de l'attaque des Niners. Quand l'attaque au sol est une menace, il est très bon pour gérer cette attaque-là.
Et là, on applique le play-action. Merci,
c'est ça.
Bonsoir.
Puis écoute, je pense qu'il avait raté 2 passes à un certain moment donné, tard, tu sais, au troisième quart. Il y a eu une très bonne séquence au troisième quart là, de passes complétées. Tout allait bien, mais c'est des passes complétées, je veux pas nécessairement manquer de respect, mais que beaucoup de carrières seront capables de faire. Tu sais, être capable de faire un play-action sur un bootleg puis lancer ton tight end dans le flat, il y a beaucoup de carrières qui sont capables de faire ça. Mais il faisait bien puis il était en contrôle. Ce que moi, j'étais moins certain, c'est que dans des situations où ce que tu sais que les Niners vont lancer, est-ce qu'il va faire le boulot? Puis surtout, est-ce que si tu lui coupes certaines options, dont Kettle. T'sais, si tu lui coupes un peu le centre du terrain, est-ce qu'il va être en mesure de le faire? Force est d'admettre que hier, il l'a pas fait le boulot, là. Puis tu l'as bien mentionné, Stéphane, pour moi, le jeu important. T'sais, tous les carrières rêvent d'avoir une chance.
De la lancer profondément pour un toucher au Super Bowl en fin de match.
Exact.
On veut, mais les corps veulent tous ça.
Quand t'es tout petit, puis t'es carrière, tu te lances le ballon avec tes amis, tu rêves à ça. OK, on perd par 3. OK, là, j'ai la balle dans les mains, puis je lance une bombe. Ben, il a eu cette opportunité-là. Et écoute, ça a été trop long, ça a été une passe incomplète. Puis comme entraîneur-chef, là, on a été quand même dur avec Kyle Shanahan, mais ce jeu-là qui a été appelé à ce moment-là, c'était le jeu parfait. OK, peut-être ouais. Que si la passe est pressée, peut-être qu'il compte pas, mais ils vont être en situation de faire un botté de placement.
Ou,
c'était pas. Il y avait besoin d'un toucher à ce moment-là. Mais écoute, tu te rapproches à la zone début. ça aurait changé complètement à la fin du match. Là.
Ouais, enfin, il prend la balle, il capte la balle. Le feeling de tout le monde, c'est qu'il marque ou il est pas loin.
Il est pas loin, exactement. Mais écoute, on le saura jamais parce que la passe était pas précise puis était même pas proche d'être précise. Donc, et l'autre point aussi que moi, je trouve qu'il y a quand même de la pression, c'est les anciens carrières des Niners. T'sais. Puis hier, je sais pas si tu as vu, il y a eu une annonce pour les 100 ans de la NFL.
Avant
puis,
le match.
Avant le match, t'as Steve Young qui sort de l'hôtel, t'as Montana qui sort de l'hôtel. Puis là, ils disent aux petits gars, ben, va-t'en dans l'end zone, go for it. Puis Jimmy G, toi, occupe-toi des bagages. Ben, ça se peut qu'il s'occupe des bagages longtemps s'il joue comme ça, parce que les deux autres, ils l'ont déjà fait avec plus de panache dans les moments importants. On va le dire comme ça. Mais je suis d'accord avec Stéphane, c'est pas un mauvais carrière. Loin de là, là. C'est un excellent carrière. Il faut juste qu'il travaille certains aspects. Puis les Niners, ils vont avoir une bonne équipe l'an prochain. Là.
Exactement. C'est une équipe qui va être encore présente pour se battre. Stéphane, avant d'aller plus loin dans l'émission, je voulais, à moins que avais-tu quelque chose à ajouter sur Jimmy G?
Ouais, une seconde.
Vas-y, pas de problème, Stéphane.
Je serais même pas surpris que l'an prochain, je tomberais pas de ma chaise du tout, que l'an prochain, Super Bowl 55, ce soit Chiefs Niners.
Oh!
Honnêtement, là.
Ça serait. On le prendrait tous, un rematch. Équipes,
ouais, les deux équipes ont ce qu'il faut pour revenir. C'est juste ça. C'est pas de dramatiser sur Kyle Shanahan ou de dramatiser sur Jimmy Garoppolo. Là. Je veux pas qu'on ait l'air de des haters en bon français, des 49ers. Au contraire, ils ont tout pour revenir dans le coup, comme les Chiefs ont tout pour être là pour plusieurs années. Donc, faudrait pas s'étonner. Là.
Stéphane, rapidement, je veux que tu nous parles une soirée pour un journaliste comme ça. Je veux que tu fasses connaître ta réalité aux auditeurs. Quand un match comme ça de championnat se termine, et là, c'est la folie du deadline, c'est la folie pour envoyer les textes, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un journaliste comme toi? Il doit avoir 20 000 priorités à regarder. Parle-nous donc un peu de ta soirée d'hier. Je suis convaincu que les auditeurs vont apprendre des choses là, sur le travail de journaliste.
Ben, c'est que dans une fin de match comme ça, où c'est très serré, ça roule dans ta tête, t'essaies de penser à plein d'éléments qui ont changé le cours du match, puis là, ça va vite, puis les minutes passent, puis tu dois travailler, tu dois livrer un texte, puis t'as l'aspect aussi qu'il faut que tu descendes en bas après le match, là, aller rencontrer les joueurs. Là, il y avait Laurent Duvernay-Tardif qui devait s'amener rencontrer les médias. Puis, dans mon cas, il fallait que je livre un texte là, aussitôt que le match finit. Parce que, comme je le disais, tu dois filer en bas, tu dois descendre rapidement là, pour les entrevues d'après-match. Là, les joueurs se mettent à arriver au compte-gouttes, on les annonce au podium. Parce qu'il faut savoir une chose, les médias internationaux là, dont je fais partie, évidemment, en n'étant pas des États-Unis, pas accès au terrain, pas accès au vestiaire. Les seuls qui avaient accès au terrain, bon, c'est les diffuseurs officiels, là, que ce soit francophone, anglophone ou espagnol. Diffuseurs officiels de la NFL ont accès au terrain, donc ils peuvent aller rencontrer Laurent. Mais dans mon cas, tu sais, il faut attendre que les joueurs se pointent au podium. Là, ils défilent un par un, puis tu regardes l'heure, puis tu te dis, hey là, je commence à avoir hâte que Laurent Duvernay arrive parce que j'ai un deadline à respecter, puis tu sais, lui, évidemment, on peut pas le blâmer. Il y a bien d'autres chats fouettés que de parler aux journalistes là, après une victoire comme ça. Donc, lui, il célèbre sur le terrain, il est avec sa famille, il vit les plus beaux moments de sa vie, c'est pleinement mérité. Tu sais, je veux dire, il mérite de prendre tout son temps. Là, il y a moi puis d'autres journalistes qui sommes là, affectés à la couverture du Super Bowl. On attend, on trépigne un peu. Quand Laurent arrive, ben écoute, moi, il me restait à peu près, je dirais, 10 minutes après son entrevue pour envoyer mon texte au journal. Le Journal de Québec, malheureusement, le Journal de Québec, le deadline était passé. Le Journal de Montréal, c'est un peu plus tard, donc j'ai été capable de livrer le texte sur le buzzer, comme on dit en bon français. Donc, c'est tout ça qui te tourne en tête. T'essaies d'aller vite, t'essaies de pas faire de coquilles, de laisser des erreurs. T'sais, c'est pas tout le temps évident dans ce contexte-là. Mais finalement, bon, ça finit toujours que dans une lutte très serrée, on bat le deadline. Mais c'est pas nécessairement évident. Puis je te dirais que, Matt, pour être bien franc, là, c'est pas là que t'écris, disons, ta plus grande poésie. C'est pas là que t'es là pour livrer un rendu. Tu peux, après ça, aller fignoler quelques trucs sur le web. Moi, je parle de l'édition papier, là, bien entendu. Après, sur le web, tu peux te lâcher lousse un peu. Puis là, faut dire une chose, c'est que t'as parlé à des joueurs, là, t'as été faire Laurent, tu fais ton texte au plus sacrant. Puis après ça, tu retournes parce qu'il y a d'autres joueurs là, qui parlent. Là. Puis là, on nous annonce dans les micros à tout bout de champ, t'es en train d'écrire. Puis là, t'entends, OK, dans tant de minutes, Patrick Mahomes au podium. Dans tant de minutes, Andy Reid au podium. C'est comme si tout ça s'accumule. Puis pendant l'espace de, je dirais, là, du à partir du quatrième quart jusqu'à une heure ou deux après le match, là, c'est un rush indescriptible. Mais en même temps, c'est la plus belle partie là, du métier. C'est l'adrénaline qui embarque. Là, dans ce temps-là, il faut que tu fournisses. Puis, tu sais, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, ça roule à fond de train. C'est ce qui fait la particularité de ce travail-là, à l'écrit, là, en tout cas. C'est que t'apprécies le Super Bowl, tu le vis pleinement, mais il y a un moment donné où tu penses plus du tout à ça. Tout ce que tu penses, c'est à livrer tes textes et à rouler comme un déchaîné. Puis ça fait partie là, de la beauté de toute cette expérience-là.
Bon, ben t'as fait ça comme un pro. Grosse semaine de couverture. Merci pour tout. Stéphane, tout le monde a été bien heureux de te lire. On te remercie d'avoir été là. Les amis, on va prendre une courte pause. Et bien sûr, on va finir avec une chronique au bar édition Super Bowl. I got a hangover. Whoa. I've been drinking too much for sure. Alors, on est de retour, mesdames et messieurs. On va faire ça rondement, chronique au bar. Et moi, c'est la chronique au bar présidentielle cette année. Alors que notre bon Donald a envoyé Kansas City dans l'état du Kansas dimanche soir après le match. Alors que la Géo nous apprend que ça se passe au Missouri. Kansas City, donc le président du plus puissant pays au monde, tweet, il ne sait même pas dans quelle ville, dans quel état se trouve Kansas City. Pas besoin de vous dire qu'on envoie le bon Donald avec toute son équipe de protection au bar, un bon Gauchlager. Pour vous, M. Trump, John Essie, qui tu envoies au bar?
Écoute, je vais envoyer Jimmy G de façon très gentille, par contre, parce que c'est comme on l'a mentionné,
ce n'est pas une cause désespérée.
Allez. Vraiment pas, puis on doute pas nécessairement de son futur. Mais il y avait une chance de passer à l'histoire. Il y avait une chance de le faire dans le même stade où ce que Joe Montana, qui est une légende pour son équipe, avait réussi une drive de 92 verges.
Qu'on appelle en anglais the drive.
Ouais, contre les Bengals de Cincinnati qui avaient closé ça avec John Taylor sur un slant dans le fond du end zone de 10 verges. Ben, il y a eu la chance de, dans des circonstances un peu similaires, avec 2 minutes 40 à faire au match, beaucoup de terrain à faire, sauf qu'il ne l'a pas fait. Puis on l'a mentionné, il y a eu une chance aussi de le faire avec une longue passe, trop longue. Ben pour ça, je donne un petit tour au bar, va y faire du bien. Je suis convaincu qu'il est allé même de lui-même.
Ouais, il est allé pour oublier, en effet. Et Stéphane Cadorette, en direct de Miami, qui va au bar, mon cher Stéphane?
Écoute, si Jimmy G est allé par lui-même au bar, je suis convaincu que Kyle Shanahan l'accompagnait.
Ah, puis il est
on
allé.
Pas boire encore hier seul.
Non, vraiment.
Non, c'est ça. Le coach doit y aller aussi. Je te laisse aller, Stéphane. Pourquoi on l'envoie au bar?
Ben, c'est l'ensemble de l'œuvre, comme je mentionnais tantôt. Là, ça fait deux Super Bowls. Il gère très mal le quatrième quart. Puis honnêtement, Kyle Shanahan, un très bon entraîneur-chef. Là. Écoutez, la chronique au bar, c'est un clin d'œil aussi qu'on fait à de très bonnes personnes, de très bons entraîneurs, de très bons joueurs. Bon, des fois, il y en a des pas mal moins bons, on va se le dire. Là. Mais dans le cas de Kyle Shanahan, je suis pas inquiet du tout pour l'avenir des Niners. Je le condamne même pas à prendre une grosse brosse avec une boisson dégueulasse. Là, ça va être une bonne bière bien fraîche. Se replacer les idées, replacer les idées de Jimmy G, se cracher dans les mains, puis repartir déjà pour l'année prochaine. Puis je pense pas qu'il va aller souvent au bord au cours de la saison à venir.
Alors, messieurs, c'est la dernière édition 2019-2020, là, en fait, pour la saison qui vient de se terminer de la zone payante. Je vais prendre la peine de remercier les acolytes avec qui on a fait l'émission. Jean Carrier, merci d'avoir été là, John, ici.
Ben, ça fait un énorme plaisir d'avoir accompagné les gens dans cette 100e saison de la NFL. Puis on souhaite tout simplement un autre centenaire à cette ligue extraordinaire et au football aussi.
Et bien sûr, on termine avec The Machine, Stéphane Cadorette. Stéphane qui a travaillé comme un bœuf depuis le début de l'année 2020 pour livrer des contenus de qualité sur le site web Journal de Québec dans le papier et être disponible. Je ne sais pas si les gens réalisent, Stéphane a travaillé comme un fou toute la soirée, toute la nuit même, et est disponible là, le lundi pour aller dans le balado, fournir des clips. Merci Stéphane, sans toi l'émission n'aurait clairement pas été la même avec la même l'émotion directement du vestiaire. On te remercie d'avoir été là. Ça a été un plaisir de travailler avec toi cette saison.
Ben, merci de le souligner. Puis je dois dire que quand il y a énormément de plaisir comme ça dans un travail, ça facilite beaucoup les choses. Tu sais, quand on a du fun à le faire, autant pour le Journal de Québec, le Journal de Montréal, les sites web, puis évidemment la zone payante. Puis ça a été une belle expérience cette année. J'espère qu'on a créé des habitudes d'écoute chez les auditeurs. J'espère que ce n'est qu'un début, souhaitons-le. Puis déjà bien hâte à la prochaine saison. Puis on va commencer ça vite. Je vais être au Combine prochainement à Indianapolis. Je vais être au repêchage à Las Vegas. Je vais essayer de pas tomber dans les fontaines du Bellagio. Ça
devrait bien aller. Parfait. Merci d'avoir été là, amateurs de football. Ça a été un plaisir de vous accompagner cette saison en espérant vous revoir dans un prochain balado de la zone payante. Merci d'avoir été là.